Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira ». Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table ». Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela, toi, tu mangeras et boiras ». Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui t'est ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Voilà, nous étudions cet évangile de Luc semaine après semaine. La semaine dernière, c'était chapitre 16, donc forcément ce matin, c'est chapitre 17. Et quand j'ai lu ça, au début, j'ai pensé que bon, c'était une collection de pensées diverses que Jésus livre à ses disciples. Vous savez, lors des assemblées générales, il y a souvent un point vers la fin de l'assemblée générale divers. Et je m'étais dit, peut-être c'est juste un divers, un mot sur les scandales, un mot sur le pardon, un mot sur la foi, un mot sur le service. Mais en réfléchissant, ces choses ne sont pas si diverses, si disparates que ça. Et je pense que nous avons un cas ici où Jésus envisage la future vie communautaire de ses disciples, la vie d'église. Si vous regardez de plus près ce passage, il y a des éléments qui font penser à la vie d'église, l'histoire de l'église. Par exemple, quand il dit « si ton frère a péché, reprends-le », ce mot « frère », ce langage fraternel, c'est rare dans les évangiles, mais dans les épîtres, ça décrit toute la vie d'église. Le langage fraternel sous-entend une vie de famille, et c'est ce que nous sommes, notamment, en tant qu'église. Et puis surtout dans le passage parallèle dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, où il y a à peu près les mêmes échanges, là, Jésus utilise carrément le mot « église » quand il parle de gérer les problèmes, le péché dans l'église. On parle d'une démarche de discipline dans l'Église, et là, il parle vraiment de l'Église. Et on pourrait dire que Jésus est en train de préparer ses disciples pour vivre leur foi dans ce contexte communautaire qui est l'Église. Ce matin, c'est Pentecôte. Et en général, on célèbre un peu la naissance de l'Église avec le don du Saint-Esprit qui permet enfin cette vie communautaire pendant... le temps que Jésus est remonté au ciel en attendant son retour, voilà, nous vivons l'Église. Et on a des cas dans les évangiles où Jésus prépare ses disciples à vivre ces choses. En Occident, nous avons, c'est vrai, une conception assez individualiste, assez personnelle, privée de la foi. Et on pourrait penser que cela aurait été beaucoup plus facile si Jésus avait dit à chacun simplement de vivre sa foi chez lui, en privé, de manière personnelle. C'est sûr, il n'y aura pas de scandale, pas de division, pas besoin de reprendre ou de pardonner son frère. Tout ça, ça se simplifie si chacun vit sa foi uniquement chez lui. Mais en réalité, ce ne serait pas plus facile. Nous avons besoin de cette dimension collective de la foi. Nous avons besoin de côtoyer des frères. Nous avons besoin de réfléchir à ces choses. Alors ce matin, ce que je propose de voir c'est à travers ce chapitre, c'est que voilà, notre foi s'augmente à travers d'une vie d'église. L'autre jour, c'était les cérémonies en souvenir du débarquement. J'ai suivi ça un peu, ces échanges franco-américains, naturellement Matthieu. Donc, un détail qu'ils ont souligné dans l'histoire, ce que je trouvais intéressant, c'est que les parachutistes, les soldats, les GI, qui débarquait en France, ils leur remettaient un petit livre, un guide de poche sur la France, parce qu'ils allaient débarquer en France et voulaient pouvoir les aider à vivre, à côtoyer les Français. Alors, en grandes lettres, la conclusion de ce petit livre guide, c'était « Nous sommes les amis des Français et ils sont les nôtres ». Donc ça, c'était le mot d'ordre. On est amis. Et dans ce petit livre, non seulement il donnait quelques traductions de mots clés que ces soldats auraient pu avoir besoin, mais ils expliquent un peu les mœurs de la culture française. Et j'ai retenu une phrase qui m'a interpellé. Selon ce petit livre, les Français sont individualistes, ce qui explique l'instabilité de leur système politique. Il n'y a pas seulement deux façons de voir les choses en France, la vôtre et celle du voisin, il y a des douzaines. Et voilà ce qu'on on va dire aux soldats pour qu'ils puissent réussir leur débarquement. Ça m'a étonné, j'aurais pensé qu'ils donnent quelques détails sur un point de rendez-vous et quelques points de guerre, mais ils envisageaient déjà une victoire et ils voulaient que ça se passe au mieux pour rassembler le monde et vivre ensemble. Et je dirais c'est un peu notre cas aussi depuis Pentecôte. Nous vivons notre foi. Nous devons le vivre avec d'autres, mais ce sont nos amis. Et il y a des obstacles. L'Église est en combat. Donc il y aura parfois des problèmes, des scandales, des divisions, des besoins de pardonner. Mais Jésus, par son Église, il débarque en territoire ennemi. Et il envisage déjà la victoire. Et il nous a donné un guide, c'est sa parole, pour qu'on puisse vivre ensemble notre foi. Alors, voyons ce que dit notre guide ce matin à travers ces versets en Luc 17. Tout d'abord, un avertissement aux responsables. Ensuite, un défi aux membres. Ensuite, une aide qui peut tout. Et enfin, une attitude qui change tout. Voilà comment nous allons aborder ce texte. Tout d'abord, ces versets commencent avec, je crois, un avertissement aux responsables, les responsables spirituels. C'est ce que nous trouvons dans les versets 1 et 2, première partie du verset 3 même. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits, prenez garde à vous-même. Alors c'est quoi ces scandales? C'est quoi cet avertissement qu'il donne à ses disciples? Bien, c'est vrai qu'il existe des scandales de toutes sortes dans notre monde, hein, sans parler d'église ou des chrétiens. Il y a des scandales politiques, des scandales dans le monde du finance, des scandales sexuels. Tout ça peut ébranler notre foi ou faire du mal à l'église de Jésus-Christ. Mais vraisemblablement, ici, Jésus parle surtout des scandales qui pourraient venir à cause des autorités spirituelles ou des responsables d'église qui se comportent de manière scandaleuse, qui provoquent des occasions de chute pour les croyants. Et notamment, on voit ça dans la phrase « s'il scandalisait un de ses petits » à la fin du verset 2. Cette expression dans les évangiles « les petits », ça parle des disciples de Jésus-Christ, ça parle des brebis, du troupeau, ça parle des chrétiens. D'ailleurs, je rappelle parfois que l'avenue des minimes, l'avenue sur laquelle se situe notre église, ici à Toulouse, les minimes viennent de cette expression « les petits ». Parce qu'avant, il y avait une communauté, un couvent, et ils s'inspiraient de cette expression « nous sommes les petits de Jésus », et ils essayaient de vivre leur foi ainsi, les minimes. Mais cette expression parle de tous les chrétiens, et peut-être en particulier les jeunes chrétiens ou ceux qui débutent dans la foi, ceux qui découvrent la foi. Bien sûr, on pense aux enfants qui peuvent parfois être victimes des abus, mais tout le monde aussi, notamment des jeunes chrétiens. Et tout le monde sait que c'est pire, les scandales ça existe partout, mais tout le monde sait que c'est pire quand ça vient d'un responsable spirituel, quelqu'un qui se réclame du nom de Dieu, qui profite d'une autorité reconnue dans l'Église pour faire du mal. Alors les scandales, ça peut être des choses concernant l'immoralité, ça peut être aussi un faux enseignement, une fausse doctrine qui écarte ces jeunes, ces petits, de suivre la vérité. Et c'est quelque chose de dramatique. Et c'est quelque chose que dans l'histoire de l'Église, on est conscient que cela a pu frapper l'Église de Jésus-Christ et faire du mal, faire des dégâts dans ce monde, notamment en Europe. Une des raisons principales que l'homme de nos jours rejette la foi, c'est la présence des scandales dans l'Église ou des mouvements qui se réclament de Jésus-Christ. C'est l'histoire de l'Europe, malheureusement. Mais avant de rejeter Jésus, reconnaissons que Jésus lui-même nous a avertis de la chose. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Et dans ce verset 2, notamment, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une pierre de moulin, à son cou. Vous voyez qu'il parle dans les termes les plus sévères, les plus remontés, contre les scandales qui peuvent toucher ses petits, ses disciples, ses croyants. Et là, il a prononcé une malédiction terrible, un jugement, c'est pire, il vaut mieux se noyer au fond de la mer que de créer une occasion de chute. Donc, lorsque quelqu'un s'indigne contre les scandales, il ne fait que suivre Jésus-Christ. Et j'invite simplement cette personne à la suivre jusqu'au bout. S'indigner contre les scandales dans l'Église, c'est avoir une attitude que Christ même avait, et il avertit ses premiers disciples, il avertit son Église, attention, et puis la conclusion à tout ça, cet avertissement responsable, c'est prenez garde à vous-même. C'est ainsi qu'il termine cette première partie du verset 3, prenez garde à vous-même. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement la même phrase que Paul reprend quand il parle au responsable d'église à Éphèse. Il dit en Actes chapitre 20, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel Dieu vous a établi comme responsable, comme évêque, pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Et c'est un grand refrain dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, dans la vie d'église. Prenez garde, les responsables d'église doivent veiller sur eux-mêmes, prendre garde à eux-mêmes pour ne pas être une occasion de chute pour l'Église qui pourrait créer des scandales et une occasion de s'éloigner de la foi, s'éloigner de Dieu. Paul dit la même chose à Timothée. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et tout responsable d'Église, que ce soit pasteur ou dans les ministères que vous prenez à cœur, dans lesquels vous servez, on est tous responsables peut-être d'un autre frère, et il faut prendre à cœur cet avertissement et savoir que ma conduite peut vraiment impacter, influencer la foi d'un autre, donc je dois prendre garde à moi-même. Donc, un avertissement responsable. Ensuite, un défi aux membres. Dans les versets suivants, donc après avoir parlé sévèrement contre les, on va dire, les faux docteurs, ceux qui introduisent des scandales dans l'Église, Jésus s'adresse à un autre cas de figure. Si ton frère pêche, il faut le reprendre et puis le pardonner. Alors, plusieurs remarques déjà sur ces versets qui me semblent intéressantes. On dit ce matin que ce que Jésus décrit ici, c'est déjà une vie d'église où on vit notre foi ensemble entre frères. Si être croyant, c'est simplement allumer une cierge, prendre la messe et rentrer chez soi, ces versets n'ont pas lieu d'être. Celui qui est à côté de nous, on ne sait pas si c'est un frère, on ne sait pas si c'est un touriste, on ne sait pas si c'est un étranger, donc on ne va pas oser le reprendre et... Ou si être croyant, c'est juste réussir un culte personnel chez soi, là encore, on n'a pas besoin de ce verset. Ce que Jésus dit ici n'est possible que s'il existe un niveau de vie ensemble où on s'aime, où on prend à cœur l'autre, sachant que vivre dans le péché, c'est s'auto-détruire, donc ce n'est pas amour qu'on va vouloir le reprendre et le restaurer dans le pardon. Et puis autre chose, par ses paroles, Jésus reconnaît quelque chose du fonctionnement de son Église, c'est que son Église ne sera pas parfaite. Son Église sera composée de frères qui peuvent pécher. Et c'est intéressant de nous rappeler la manière que la Bible, le Nouveau Testament, parle de l'Église. Elle envisage un temps où elle sera irréprochable. C'est le projet. Dieu est en train de nous transformer. Mais il n'y a pas un regard utopique où, sur l'Église. Jésus sait très bien qu'il y aura des occasions où il va falloir gérer le péché au sein de son assemblée. Alors finalement, c'est ça la question. Comment relever ce défi? Gérer les relations humaines entre pécheurs que nous sommes. Et la démarche de Jésus, c'est reprendre, demander pardon et pardonner. Et là encore, pour faire ces choses, reprendre, demander pardon, pardonner, il va falloir un cadre où l'amour et l'amitié, il y a une fraternité forte. C'est ce qui permet de reprendre quelqu'un, par exemple. Vous savez, reprendre quelqu'un, c'est une mission délicate. Personne n'aime être repris. Alors, c'est facile de critiquer, c'est facile de juger, mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande de faire. Il nous demande d'agir pour le bien de l'autre en fonction de son rétablissement. Et quelqu'un disait, j'aimais bien ça, quelqu'un disait, reprendre, c'est comme écrire un chèque sur un compte. Mais il faut que le compte soit alimenté pour ne pas tomber dans le rouge. Reprendre, c'est comme écrire un chèque sur un compte. Et ce compte, il faut qu'il soit alimenté en amour et en confiance entre les personnes. Comme j'ai dit, personne n'aime être repris. Quand vous reprenez quelqu'un, vous tapez dans l'amitié, en quelque sorte. Vous dépensez sur le compte. Si le compte est bien alimenté en amour, confiance, entente, là, ça peut bien se passer. S'il n'y a rien sur le compte, vous risquez de braquer la personne et casser la relation. Imaginons une famille, des parents, avec des enfants qui grandissent, qui arrivent à l'âge de l'adolescence. Et puis, voilà, cet âge, parfois, il faut reprendre, corriger les enfants, guider les enfants. Si, à travers les années, les parents se sont construits un capital d'amour et de relations avec leurs enfants, les moments de correction et les conseils qu'ils peuvent reprendre, ça peut bien se passer dans la famille. Mais si il n'y a pas ce capital d'amour, si c'est toujours juste gronder ses enfants et des règles, arrivé à l'adolescence, quand il faut corriger, ça passe ou ça casse, et souvent ça casse. Donc, reprendre quelqu'un nécessite, c'est une bonne illustration, c'est comme écrire un chèque sur un compte, alimenter le compte. Et une vie d'église nous permet d'alimenter le compte dans le quotidien. Heureusement, ce n'est pas tous les jours qu'il faut reprendre quelqu'un, tout le temps. Mais nous pouvons alimenter le compte en amour, en lien fraternel, pour que nous puissions maintenir cette recherche de sainteté, de pureté, parmi l'église de Jésus-Christ. Et Jésus, ce qui est fort dans le grand défi qu'il nous demande à relever, c'est que, ok, vous allez reprendre un frère, vous allez vouloir corriger une situation, mais l'accent sur lequel Jésus met dans ces versets, c'est d'accorder le pardon promptement et constamment. Il dit, s'il demande 7 fois pardon dans le même jour, eh bien, vous le pardonnez. 7 fois dans le même jour. Là, on dit que c'est impossible. Ce défi qu'il demande de relever, c'est impossible. Qui peut pardonner la même faute 7 fois dans le même jour? Au bout de la 4e, 5e, 6e fois, ne devrait-on pas mettre en doute la sincérité de son repentir? Ne devrait-on pas fermer son cœur pour se protéger? Ne devrait-on pas tout faire pour éviter la personne? Et Jésus dit non, ce n'est pas cette attitude-là et ce pardon récurrent, constant, qu'on est censé offrir à ses frères dans la foi. Et c'est surprenant, mais nous le savons tous, ce pardon abondant, ce pardon constant, régulier, c'est la clé d'une vie d'église, c'est la clé pour toute vie communautaire. Je pense notamment aux couples. Là, effectivement, il y a peut-être des occasions à pardonner 7 fois dans le jour. C'est pas 6 et 7, c'est même un chiffre assez bas. Reprendre, être repris, demander pardon, pardonner, je ne saurais pas dire quel est le plus difficile. C'est quoi le plus difficile? Reprendre quelqu'un dans l'amour, être repris et accepter cette correction pour son bien, demander pardon, pardonner? Quelle est la chose la plus difficile pour vous? Je vous pose la question, à vous de réfléchir, mais le défi à relever pour réussir une vie d'église, c'est pratiquer tout ça. Et c'est maintenant, je crois, qu'on peut comprendre la requête des disciples. Dans la suite, il vient de leur donner ce défi de pardonner facilement, constamment, régulièrement. Et vous voyez maintenant ce que disent les apôtres en réponse à ça, verset 5. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Ces disciples, après avoir entendu ces instructions sur prendre garde à vous-même, attention au scandale, sur le pardon à accorder aux frères, là, ils se sont face à quelque chose de très grand, un défi énorme. Alors, ce qui explique leur requête, augmente-nous la foi. C'est intéressant, ils ne disent pas augmente-nous la patience, ils ne disent pas augmente-nous la douceur, augmente-nous la tolérance, ils disent augmente-nous la foi. Et je pense que c'est une vérité là-dedans. Nous avons besoin de foi pour vivre la vie d'Église à la hauteur que Dieu nous demande en tant que chrétiens. Nous avons besoin de partager notre foi ensemble. La vie d'Église à laquelle Jésus nous appelle va nécessiter la foi en Dieu, pour croire que c'est vraiment la meilleure chose pour nous d'aller pardonner ce frère ou bien de veiller sur soi-même. Alors pour ça, après un avertissement aux responsables, un défi aux membres, il va nous aider avec une aide qui peut tout. Une aide qui peut tout. Et donc la réponse à Jésus à leur difficulté face à ce défi, à leur requête d'une grande foi, le Seigneur dit, verset 6, « Si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et vous obéirez. » Cette aide qui peut tout, c'est la foi comme un grain de senevé. Alors vous avez besoin de savoir plusieurs choses pour comprendre cette image que Jésus utilise. Tout d'abord un grain de senevé, je pense que vous connaissez, mais parfois traduit un grain de moutarde. Mais dans la pensée, surtout à l'époque, ce grain de senevé, c'était la plus petite des semences parmi les plantes et, qui voyaient pousser autour d'eux. C'était une toute petite semence et pourtant ça donnait un arbuste assez conséquent. Et donc Jésus va prendre quelque chose, une image de quelque chose qui est très petit, un grain de senevé. Et puis parlons de ce sycomore aussi. Normalement vous avez là l'image d'un sycomore. Alors, ce qui m'a frappé dans l'image quand j'ai cherché ça, c'est vrai, c'est un arbre avec un système de racines très développé, très étendu, on va dire très enraciné. Ce n'est pas le genre d'arbre que vous abattez avec un simple coup d'hache. J'aimerais pas avoir la tâche de déraciner cet arbre. Alors, on imagine bien Jésus marchant sur le chemin, comme dit la suite du texte, il est en chemin, et il y avait des sycomores qui poussaient par là, il pouvait très bien dire, comme ce sycomore, il suffit une foi comme une graine de senevé pour le déraciner. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par tout ça? Tout d'abord, les écologistes n'ont pas besoin de s'affoler devant ce texte. La mission de l'Église n'est pas déraciner tous les arbres et les jeter dans la mer. C'est vrai qu'à la nouvelle salle, il a fallu déraciner un arbre devant la porte d'entrée. Heureusement, ce n'était pas un sycomore, c'était un autre arbre. Mais visiblement, Jésus parle d'une manière imagée. Et ce sycomore, je pense, évoque justement les situations inextricables dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Un obstacle immense à nos yeux, par exemple comme un problème entre deux frères, deux sœurs dans l'assemblée, comme par exemple la difficulté de pardonner quelqu'un qui nous a fait tort, là on commence à comprendre les situations inextricables parce que nous les avons vécues et parfois les situations deviennent tellement à nos yeux impossibles. Et Jésus dit, offre la possibilité, dans cette image, de s'en débarrasser complètement. C'est ça l'image de le planter dans la mer, de le jeter dans la mer. Dans la Bible, quelque chose qui se met au fond de la mer, c'est quelque chose qui disparaît, qui part. Il avait un peu la même idée, jeter quelqu'un avec un meule de moulin autour de son cou au fond de la mer. Voilà, c'est une image positive, c'est que Dieu, une prophétie en Michée dit que Dieu jette nos péchés au fond de la mer. Donc c'est vraiment l'image de s'en débarrasser complètement. Et ici, Jésus veut les aider, il leur donne cette aide qui peut tout, notamment une foi comme une graine de senevé qui peut faire face aux problèmes rencontrés, par exemple, dans une vie d'église. Et finalement, Jésus corrige leur conception de foi un peu. Dans leur esprit, il fallait une foi énorme, une foi colossale pour pardonner de la sorte. Pour vivre une telle vie chrétienne, augmente-nous la foi. C'est énorme ce qu'il nous demande. Et Jésus dit, il vous faut la foi d'une taille très 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 petite et d'une foi d'une graine de senevé. Ça, c'est étonnant. Et donc finalement, on revient à cet enseignement qui revient de la Bible. Ce n'est pas la taille de votre foi qui compte. Ce n'est pas la taille de la foi qui compte. C'est une vérité que la Bible reprend souvent. Pourquoi ce n'est pas la taille qui compte? Pourquoi Jésus va enseigner quelque chose? Il corrige en quelque sorte. Ce n'est pas une foi énorme qu'il vous faut. Ça commence avec une foi toute petite qui va grandir dans le temps peut-être. Mais c'est déjà une foi toute petite qui répond à vos problèmes. Pourquoi ce n'est pas la taille? Parce que quand on y réfléchit, effectivement, c'est dans la Bible nous enseigne que ce n'est pas la taille de notre foi qui compte, c'est l'objet de notre foi qui compte. La solution pour ce sycomore, c'est-à-dire les situations inextricables de notre vie, ce n'est pas la grandeur de notre foi, la grandeur de nos efforts, la grandeur de nos décisions, mais c'est la grandeur de notre Dieu qui peut régler les choses. Et dès que vous avez compris ça, ce n'est pas la taille de ma foi, c'est la taille de mon Dieu, là, votre foi vient de s'augmenter. Le grain de senevé vient de grandir dans quelque chose de finalement très grand. Mais ce n'est pas la taille de notre foi qui compte, c'est la taille de notre Dieu. Une illustration, on était à Genève l'autre jour avec ses conférences, et donc je reprends une image de Tim Keller qui était pas mal, où il parlait de ces mêmes choses, la taille de la foi. Donc c'est une autre image, c'est une image qui s'accorde mieux avec l'hiver. Ici on est en printemps, mais c'est l'hiver maintenant. Et il dit, imaginons quelqu'un qui s'avance sur un lac gelé, sur la glace. Il est très confiant, il a une grande foi, il va s'avancer sur ce lac glacé. Mais la glace n'est épaisse que de 2 cm. Malgré sa grande foi, malgré le fait qu'il n'a pas peur, malgré sa confiance, la glace se brise. Et il se noie. Un autre homme, prenant un autre cas, cette fois il a une petite foi, une foi hésitante, une foi remplie de doutes, une foi en difficulté, mais lui aussi s'avance sur la glace. Mais là où il s'avance sur la glace est très épais de 20 cm. Et lui, il traverse, il passe sans problème. Quelle est la différence entre ces deux hommes? C'était pas la qualité de leur foi, la grandeur de leur foi, c'était l'épaisseur de la glace qui a fait toute la différence. Et c'est toujours pareil pour nous les chrétiens. Parfois on imagine que devenir chrétien ou s'engager dans l'église à ce niveau demande une foi énorme, colossale. Mais Jésus dit non, c'est le contraire, il faut une petite foi. Mais cette petite foi dans un grand Dieu, un grand sauveur, fait toute la différence et permet de pardonner, permet de vivre une vie d'église. Et donc c'est vrai que l'individualisme, l'égoïsme, le manque de pardon, voilà les sycomores de notre vie, voilà les situations, les choses inextricables de notre cœur. Mais ce foi d'un grain de senevé peut les déraciner, puisque nous avons un grand sauveur qui change les cœurs et qui nous accorde son amour et son pardon. Donc ça c'est une aide qui peut tout. C'est cette foi placée sur le bon objet, notamment sur Dieu lui-même, sur Jésus-Christ. Et enfin, voyons cette attitude qui change tout dans les versets qui nous restent, versets 7 à 10. Ici, Jésus donne cette illustration de serviteur qui revient des champs, qui revient d'une journée de travail. Et il dit, est-ce que vous pensez que le maître va les soigner, chuchoter comme ça? Non, ils vont encore pouvoir travailler pour le maître et le servir. Et leur attitude est quand même bonne. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devrions faire. Et il prend ce cas pour montrer que ces serviteurs, même après avoir fait beaucoup de choses, le fait qu'ils servent encore, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce service encore le soir. C'est normal, c'est ce qu'on attend d'un serviteur. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est tout à fait ordinaire, c'est tout à fait normal, ce service qu'ils sont encore prêts à fournir, puisqu'ils sont serviteurs d'un maître. C'est ça la vie d'un serviteur. Et ce que nous voulons, ce qui est aussi la réussite, la force d'une église, c'est quand une église est remplie d'une telle attitude, un tel esprit de service. Il faut imaginer, une telle église serait une église forte, une église unie, où chacun dit, ben c'est normal le service que je rends aux autres, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je fais. Je le fais naturellement, parce que c'est ce que Dieu m'appelle à faire. D'où vient cette attitude? C'est ce que je veux savoir surtout. D'où vient cette attitude? À la fin, ils disent, nous sommes des serviteurs inutiles. D'autres traductions, nous sommes des serviteurs indignes. Et c'est intéressant, c'est après avoir fait plein de choses, ces serviteurs maintiennent qu'ils restent inutiles, ils restent indignes devant le maître. Et ça, c'est très fort. Parce que dans les autres religions, dans les autres communautés religieuses, tout ce qu'on fait, tout le service qu'on rend, toutes les activités, c'est pour se rendre digne, c'est pour se rendre utile, c'est pour se rendre méritant aux yeux de Dieu. C'est pour que Dieu me doit quelque chose en retour. Ça, c'est les autres religions, les autres communautés religieuses. Le service, les activités, les œuvres, comme dit la Bible, c'est pour se rendre digne, pour se rendre utile aux yeux de Dieu. Mais ce n'est pas la voie de l'Évangile, ce n'est pas ce que la Bible nous apprend. L'Évangile nous dit qu'on ne peut rien faire en nous-mêmes pour nous rendre dignes auprès de Dieu. On ne peut rien en nous-mêmes qui nous rend utile à Dieu. L'Évangile dit plutôt que Dieu ne nous doit rien, il nous doit jugement, il nous doit colère, il nous doit punition. Mais au lieu de nous donner ça, lui le Maître, il est venu en Jésus-Christ, il s'est fait serviteur, et lui le Maître, au lieu de nous donner ce que nous méritons, il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Il nous a donné son pardon. Il nous a donné abondance et largesse. Et c'est ça qui est fort. Le message de l'Évangile, c'est que Christ a donné sa vie pour les gens inutiles, les gens indignes. Et quand vous avez compris ça, ça vous donne une attitude qui change tout. Ça change tout dans notre manière de servir les autres. Ça change tout dans votre manière de regarder les autres. Parce que vous êtes constamment conscient que vous êtes indigne d'avoir reçu tant de bonté de la part de Dieu. Alors, comment ne pas le répandre autour de vous? Revenons à ce pardon, par exemple, qui, à mon sens, est au clé d'une vie communautaire, une vie d'église. C'est gérer les relations humaines qui sont parfois pas toujours évidentes. Et pourtant, Dieu permet une unité grâce au pardon. Mais ce pardon, cette fois dans la journée, quelqu'un pourrait dire, mais ça c'est extraordinaire, quelqu'un qui est capable de pardonner 7 fois dans la journée. Mais un chrétien qui a été pardonné, pour lui, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est normal. D'ailleurs, j'ai dit, qui peut pardonner le même péché 7 fois dans la journée? C'est impossible, mais je connais un qui pardonne facilement le même péché 7 fois dans la journée, c'est Dieu. Vous le vivez tous les jours, non? Vous lui demandez pardon, vous revenez à Dieu dans votre vie de prière, facilement 7 fois dans la journée, voire plus. Et il vous pardonne par Jésus-Christ. Alors, c'est pas si inconnu que ça dans notre vie de tous les jours. Dieu le fait. Et lorsque nous sommes conscients que Dieu le fait envers nous, on peut dire, bah oui, finalement, il n'y a rien d'extraordinaire quand je l'offre à mes frères. Et oui, Dieu nous offre le privilège d'être dans sa famille, de servir dans sa maison, d'être appelé non seulement ses serviteurs, mais ses enfants. Et quand on est conscient de ce qu'il nous offre, malgré notre indignité, malgré notre inutilité, alors ça nous donne une attitude merveilleuse. Et puis, encore plus, il nous rend utile. Hein. Ce n'est pas le dernier mot que la Bible porte sur nous, les chrétiens. Plus tard, Paul dirait qu'on peut se rendre utile à Dieu, à ses yeux. Et on ne veut pas mettre l'accent uniquement sur cet aspect inutile, parce que Dieu nous utilise. Mais il y a une attitude qui reste au fond du cœur, qui reconnaît qu'on ne mérite pas toutes ces bénédictions, on ne mérite pas toute cette fidélité dont on a parlé ce matin. Alors, puisque Dieu nous l'a donné, je peux m'engager dans son service, je peux m'engager dans une vie d'église, même s'il y a parfois des occasions de chute, de division, même s'il y a parfois des frères qui m'embêtent, qui me font du mal, eh bien, j'ai fait du mal à Dieu, je vais le suivre. En regardant ces émissions, notamment, il demandait aux vétérans qui ont fait le débarquement, mais qu'est-ce qui vous a poussé à faire tout ça? Comment ça s'est passé? Pourquoi? Et j'ai remarqué l'autre jour que souvent on disait que c'était normal. C'est ce qu'il y avait à faire, on l'a fait. Ils ne se vantaient pas. Et ils l'ont fait parce qu'ils étaient ensemble avec des frères d'armes. Les compagnons qu'ils avaient, ensemble, il y avait une unité. Et pour la cause noble de la liberté, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, c'est ce qu'ils avaient fait. Nous avons une cause encore plus grande, annoncer la liberté au monde par le pardon de Jésus-Christ. Nous avons l'occasion de vivre notre foi ensemble avec des compagnons d'armes, des frères d'armes. Et quand on vit ainsi, effectivement, c'est normal. Tout ce que Dieu peut nous demander, il n'y a rien d'extraordinaire. Nous sommes des serviteurs inutile, mais il nous laisse servir dans son Église. Que Dieu vous donne une bonne Pentecôte ce matin, que nous puissions profiter de son don de l'Église, son don de l'Esprit, pour vivre notre foi ensemble.